BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur BFM Business pour une nouvelle émission de Focus Retail qui décrypte les dernières actualités et innovations du secteur. Alors que ces deux dernières années, le paysage de la grande distribution s'est consolidé avec le rachat notamment des magasins Casino par certains distributeurs et que la guerre en Iran fait plonger les cours du pétrole, le carburant augmente. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle inflation? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Thierry Cotillard, le président du groupement Mousquetaire. Il nous détaillera aussi ses bons résultats. Et puis en deuxième partie d'émission, alors que la proximité est devenue le cheval de bataille des distributeurs, nous parlerons de bar à salade avec des nouveaux services et notamment Picadeli qui accélère sur l'innovation en intégrant l'intelligence artificielle. J'aurai le plaisir de recevoir David Bicheron, son président. Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Thierry Cotillard. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le président du groupement Mousquetaire. À mes côtés sur ce plateau, Claire Koraleski. Vous êtes directrice générale de Média Performance. Vous êtes notre experte retail. Vous êtes une habituée de l'émission. Alors, parlons actualité. La guerre en Iran se prolonge. Le prix du pétrole a grimpé. Alors que Leclerc et Système U s'étaient engagés à baisser leur prix. Michel-Édouard Leclerc ne semble pas avoir finalement réussi à tenir ses promesses. Quant à vous, Thierry Cotillard, vous ne vous êtes pas encore prononcé sur ce sujet officiellement dans les médias. Quelle est votre position?
Alors, notre position, elle est un peu similaire quand même à tous nos confrères. C'est déjà de rappeler que c'est un produit d'appel.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une vraie compète et qu'on en fait un prix psychologique, puisqu'en fait, on est tous des discounters. Et quand vous arrivez sur le parking, le premier prix que vous voyez, c'est évidemment le prix de l'essence. Donc, le procès qui nous est fait de dire ils sont en train de restaurer leur marge, c'est vraiment presque nous insulter dans notre culture de commerçant. Parce que, bien évidemment, l'objectif, c'est de proposer aux Français les prix les plus bas, parce que si on le fait pas, justement, Leclerc va le faire. Donc, je peux vous assurer que la réalité et la détermination des mousquetaires, c'est d'avoir les prix les plus bas du marché pour pouvoir être les plus agressifs. Ensuite, ça bouge tous les jours. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a eu une lecture, et c'est celle qu'a eu Michel, d'annoncer une baisse très importante. Et la réalité, c'est que le lendemain, finalement, ça a augmenté. Et là, il y a eu confusion, puisque l'annonce faite n'a pas été respectée dans ces stations et dans aucune station en France. La réalité aujourd'hui, c'est que si on veut que ça baisse, c'est pas les distributeurs qu'il faut regarder. Il faut regarder là où sont les grosses poches de ressources. Quand vous avez une essence à 2 euros, retenez un seul chiffre, la moitié va à l'État. Donc c'est 1 euro en taxes, en TVA. Donc on peut regarder les 4 centimes puisque la marge d'un distributeur avant cette compétition commerciale, c'est 2%. Et dans certains cas, on se met à 0 ou à 1% pour justement faire le prix du concurrent. Donc on peut travailler les marges des distributeurs qui font 4 centimes. Mais je crois que c'est surtout intéressant de regarder en amont la marge du raffineur, la marge du transporteur et puis surtout... L'État, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'aujourd'hui, il veut donner un petit coup de main aux Français et toucher à l'enveloppe qu'il va percevoir, qui est une enveloppe qui n'était pas budgétée, puisque la réalité, c'est comme une entreprise, il y a eu un budget de fait pour 2026, cette hausse du pétrole n'était pas prévue, et donc la TVA additionnelle n'était pas prévue. Est-ce qu'ils veulent en redistribuer? C'est la question que je pose aujourd'hui.
Oui, parce que lui, son sujet à Michel-Édouard Leclerc, c'était de négocier directement avec les raffineurs. Est-ce qu'on peut imaginer que vous mettiez à prix coûtant, par exemple?
Alors, en fait, on a déjà pris la position... au niveau de notre centrale d'achat, d'être à zéro. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune marge au niveau de la centrale. Et la réalité, c'est que nos adhérents sont, je vous dis, dans certains cas à 0, à 1, à 1,5, à 2. Mais en tout cas, l'obsession, c'est d'avoir les prix les plus bas. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les premiers jours, il y a eu 50% de volume en plus. En 4 jours, on a fait les volumes de 10 jours. Et là, c'est en train de ralentir parce que les gens, les Français, font attention, font des économies et circulent moins. Donc, vous inquiétez pas, on est commerçants. Et la réponse que j'ai, c'est qu'on sera le plus agressif possible pour répondre à leurs attentes.
En dehors du pétrole, Thierry Cotillard, est-ce qu'il va y avoir des impacts sur les prix de l'alimentaire? Est-ce qu'il va y avoir un impact dans les rayons?
Alors, c'est trop tôt pour le dire. Au moment où je vous parle, on a parlé que dans le détroit d'Hormuz, il y avait bien sûr ces engrais agricoles qui effectivement inflataient. Le vrai danger, ce serait qu'il y ait une spéculation financière sur ces sujets-là. Et la seule chose que je vais vous dire, c'est qu'on sort des négociations commerciales. La réalité, il y a eu quelques marchés très inflationnistes. On l'a dit, le chocolat et autres, mais en grande majorité, on a obtenu des baisses, et donc c'est vraiment pas d'actualité au moment où on se parle, même si le conflit a commencé il y a 10 jours, de se dire il y a une nouvelle inflation alimentaire qui arrive en France. C'est pas du tout prévu, et si ça devait être le cas, compter sur nous et nos petits concurrents pour avoir des explications, parce que ce serait trop facile de dire il y a une guerre à l'autre bout du monde et donc ça doit générer une inflation. Et on n'est pas dans le même contexte, parce qu'autant avec l'Ukraine, on était privé de blé et de matières premières agricoles, ça allait beaucoup moins avec ce conflit en Moyen-Orient.
Et il y avait un sujet aussi sur l'électricité au moment de l'Ukraine.
Bien sûr.
Alors justement, vous le dites, vous venez de sortir des négociations commerciales, mais vous n'avez pas des industriels qui sont venus toquer et qui vous ont dit, voilà, est-ce qu'on peut repartir dans des négociations?
Non, pas encore.
Ça, c'est pas encore à l'ordre du jour.
Pas encore, et c'est rassurant, ça veut dire que tout le monde est un peu responsable et se dit, on attend de voir comment ça se passe pour savoir s'il y a un vrai impact sur la production.
Alors Thierry, la semaine dernière, vous avez publié vos résultats, des résultats qui sont quand même plutôt bons. Vous étiez assez satisfait. Est-ce que c'est dû en partie à l'absorption des anciens casinos majoritairement?
Alors, peut-être rappeler les chiffres. On fait un 4,2% de croissance sur le chiffre de l'année d'avant. Et donc, il y a un chiffre à retenir, c'est qu'on a fait 20% de croissance au niveau du groupe en 2 ans. Donc, c'est exceptionnel. Ça fait plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. On en est très satisfait. Maintenant, il y a bien sûr un effet parc. C'est-à-dire, quand vous récupérez 230 casinos qui deviennent Intermarché, ça amène de la croissance. Ça a amené 3,2 points. Et l'excellente nouvelle pour nous, c'est que près de 2% de notre croissance est liée au parc historique et aux 2100 points de vente qu'on avait avant. Donc, c'est une dynamique commerciale plus de la croissance externe qui fait qu'on aura eu la plus belle croissance en France. L'année dernière, on a fait 0,5. On est à 17,5. Et donc, ça nous donne l'envie d'aller chercher Carrefour et Leclerc. C'est une vraie compète. Et donc, les 20 points sont là et j'espère qu'en 28, on y sera.
Oui, alors justement, sur le dossier casino, est-ce que vous suivez du coup cette restructuration de la dette? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous envisagez, je ne sais pas si certaines enseignes sont à vendre, est-ce que vous gardez les yeux ouverts sur ce sujet?
Alors nous, on avait un pari pas fou, qui était raisonné, c'était de se dire, est-ce que le groupement des mousquetaires a capacité finalement à rembourser ce 1,4 milliard d'euros qu'il aura mis à racheter ses points de vente? Eh ben, 2 ans et demi après, je vous dis oui, puisque l'intégralité de la dette a été remboursée, ce qui est presque un exploit, puisqu'on avait prévu de le rembourser sur une durée qui soit plus longue. Donc, pour répondre à votre question, ça nous mettra en position, pas cette année, mais dans les années qui viennent, d'étudier les éventuelles reprises d'autres magasins si ça venait sur le marché. Au moment où je vous parle, on est dans la reprise des Colruyt. Aujourd'hui, 18 Colruyt sont en train de, enfin, cette semaine, de réouvrir. Et puis, il y en aura eu 80 à la fin avril. Et puis, on a, nous, une autre forme de croissance pour Intermarché. C'est ce partenariat avec Auchan qui arrive, qui sera là à partir de septembre. On attend l'autorité de la concurrence. On espère que ce sera un avis favorable. Et ça aussi, ça va nous amener du chiffre d'affaires et on en est ravis.
D'en racheter 91 supplémentaires.
Et sur les 300 supermarchés, puisqu'on parle que des supermarchés Auchan, il y a effectivement une possibilité pour nos adhérents d'en racheter 91 qui vont là devenir Intermarché, j'allais dire, définitivement à partir du moment où les adhérents les rachètent.
Alors justement, on parle de casino, on parle d'Auchan également, qui n'est pas en très bonne forme, hein, compte tenu de votre proximité avec eux, puisqu'il y a effectivement ce passage sous franchise. Il y a aussi votre alliance à l'achat, alliance sur
la data.
Sur le retail média. Est-ce que vous pourriez envisager aussi là de racheter d'autres magasins si jamais Auchan en mettait en vente?
Écoutez, on va se souhaiter un partenariat qui soit productif pour les mois et les années qui viennent, c'est-à-dire que Auchan s'en sorte et que Intermarché réussisse à les intégrer sous cette forme de master franchise et faire plus de chiffres avec eux. La balle est dans leur camp, c'est-à-dire on va leur amener des conditions d'achat. Et comme j'ai défendu, parce que j'ai eu cette chance d'être invité à l'Assemblée Générale de la famille Muliez, je leur ai dit, vous avez fait la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'est votre exploitation. Ce sont vos équipes qui pourront sortir les résultats de vos supermarchés et hypermarchés. Donc, l'avenir nous le dira. On leur souhaite surtout de réussir sous bannière Intermarché.
En tout cas, c'était quand même une première pour eux.
C'est une première et c'est une première pour tout le monde. C'est-à-dire, vous imaginez dans un monde d'indépendants que nous sommes des indépendants, se dire il y a des franchisés à côté de nous, mais tous les adhérents ont bien compris le sens de ce partenariat. Et à chaque fois, je dis, il y a un risque à faire un deal, mais il y a surtout un risque à ne pas faire des deals. Et si ça n'avait pas été Intermarché qui avait tendu la main aux champs, ça aurait été certainement un concurrent. Donc, on est très heureux de le faire avec eux.
Je vais laisser la parole à Claire. J'avais juste une question sur les parts de marché. Vous êtes à près de 17% de parts de marché, là, dans le dernier Kantar, la dernière publication, donc en ce début d'année. Vous visez 20% en 2028. Donc, vous atteignez peu à peu votre objectif. Mais sur la dernière partie de l'année, on voit que Leclerc et U ont progressé. Vous pas. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Oui, effectivement. Alors, on a fait 0,3 en janvier. On fait moins 0,1. On l'explique quand même, c'est un sujet de promo où on n'a pas été au rendez-vous. C'est aussi un sujet d'assortiment. On n'est pas toutes les gammes puisqu'on était en négociation avec les industriels. Tous les accords sont signés. Les gammes sont maintenant en train d'être redéployées dans les magasins. Et puis, je vais vous dire, c'est très bien. Parce qu'en fait, on vit tellement sous la pression de la part de marché que de temps en temps, de prendre un petit -0,1, ça repique les équipes et on repart de l'avant.
Alors, on voit quand même, les premiers, c'est les indépendants. Donc, effectivement, oui. Les groupes intégrés ont beaucoup plus de mal. Pour vous, c'est quoi la clé du succès, justement, qui fait dire que même quand un Auchan passe à Intermarché, donc quelque part, on est dans l'intégré qui devient marque indépendante, on va retrouver du succès?
Je crois que ce qui nous caractérise tous les trois, c'est qu'il y a un autre point commun, c'est qu'on est quand même sur le sujet du prix, qui est la première attente des Français. Donc, les discuteurs que nous sommes, Leclerc, U Intermarché, ne lâchent pas le combat du prix et en font. Et en font pour deux raisons. C'est que je pense qu'on a une négociation qui est au rendez-vous. Et surtout, parce qu'on l'a vu quand on a repris les casinos, on a baissé les prix de 18%. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas 20 points d'écart dans nos conditions. C'est qu'il y avait des conditions d'achat, mais il y avait surtout un niveau de charge d'exploitation qui fait qu'à la fin, c'est le client qui paye l'addition. Eh bien, les indépendants savent gérer leurs entreprises. Ce sont des PME à taille humaine. Et le résultat, c'est que ça fait du bruit. Et donc, c'est à mon avis ça qui explique aussi notre succès. Sans oublier, bien sûr, l'agilité. On est dans les territoires. On est libre de faire les assortiments qu'on veut, de travailler en direct avec des producteurs. Et ça plaît aux consommateurs.
Thierry, il y a un sujet difficile quand même. C'est la question du bricolage. Oui. Et notamment des bricomarchés et des bricoramas, dont les ventes baissent de 7% l'an dernier. Pour relancer la machine, 160 magasins vont passer sous enseigne. Bricomarché. Justement, est-ce qu'on doit s'attendre à des fermetures aussi du côté de Bricomarché ?
Alors non, les chiffres sont ceux-là, effectivement, un marché en berne, parce qu'effectivement la construction est à l'arrêt, donc les gros chantiers ne se font plus, donc ça fait du chiffre en moins. C'est 3,4 en régression sur une année qui était déjà en négatif. Bricomarché tire son épingle du jeu, et vous l'avez dit, on ne mettra pas la poussière sous le papier. Moins 7, c'est vraiment pas bon pour Bricorama. La décision a été prise avec les associés, il n'y aura qu'une enseigne. Schéma de convergence, avant la fin de l'année, on aura enclenché le fait que Bricomarché reprennent les Bricoramas et on n'aura qu'une enseigne. Et une enseigne, ça va dans le sens de ce que je vous disais, c'est-à-dire, si on veut être discounter, ben on peut pas avoir deux directions marketing, on peut pas avoir deux informatiques qui coexistent. Aujourd'hui, ça ne fera qu'un réseau et donc on va faire on va organiser une convergence de Bricorama vers Bricomarché dans les 18 mois. Et moi, je suis intimement convaincu que ça, plus un plan d'action sur le commerce, parce qu'en fait, on est aussi dans un marché qui est difficile. Donc, la solution, c'est que nos adhérents, j'allais dire, renvoient du prix de la promo et soient sur les fondamentaux du commerce. Et c'est le cas. Et donc, je suis pas inquiet, on va s'en sortir.
Pas d'impact social.
Non, pas d'impact social. Il n'y a pas de restructuration. L'objectif, c'est de transformer un Bricorama qui existe en Bricomarché, il faut le dire, pour rassurer les équipes.
Et d'accélérer aussi sur l'e-commerce qui fait défaut.
Alors, on est plutôt à la rue, on est en retard. Et donc, j'ai dit aux équipes, on ne peut pas en 2026 et en 2027 vouloir être sur le podium de la distribution dans nos divisions, et notamment en bricolage, si on ne fait pas de digital. La réalité, c'est qu'on est en retard. Là, c'est pareil, c'est une opportunité. Moi, je le vois comme une opportunité pour aller chercher de la croissance. Donc, on va aussi avoir un plan d'accompagnement des équipes, parce que c'est un nouveau métier, pour que tous nos adhérents proposent des solutions digitales pour tous nos consommateurs.
Et un modèle drive ou un modèle e-commerce vraiment pur?
Alors, ce sera du drive, et puis on a des marketplaces, on essaye de voir, mais ça ne doit pas être en concurrence, ça doit être complémentaire, et donc on va caler les
modèles. Et ça représente un investissement de combien?
En termes d'investissement, j'ai envie de vous dire, la dépense, elle est là, c'est des dizaines de millions d'euros qu'on met pour faire connaître nos sites, pour développer notre informatique, mais c'est une acculturation. En fait, il faut que nos employés, nos chefs d'entreprise comprennent qu'un consommateur, il est multicanal, il est sur le carrelage le week-end et puis il peut aussi commander de son appli et c'est ça qu'on va développer dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup Thierry Cotillard, restez avec nous, on reparlera proximité dans la deuxième partie avec notre start-up, mais tout de suite on passe au focus de notre experte. Claire, on vient de parler de la grande conso alimentaire, on le sait c'est un territoire d'innovation, mais on en est où aujourd'hui ?
Alors c'est intéressant, on vient effectivement d'avoir certains chiffres. En 2025, l'innovation, elle a progressé de 16%. C'est vrai qu'elle était plutôt en berne, on va dire, en année de 2024. Donc elle reprend. Elle est encore faible en termes de poids de chiffre d'affaires, parce que c'est 1,1% du chiffre d'affaires de l'alimentaire. Mais effectivement, ça redémarre.
Quel rôle ont les enseignes justement à jouer sur ce terrain de l'innovation?
Voilà, je pense qu'il faut rappeler, le distributeur, il déniche des produits pour créer son assortiment idéalement le plus adéquat par rapport à sa zone. Et effectivement, là on voit bien les distributeurs, dénicheurs de talents. Ils vont chercher les innovations tant dans les start-up que les marques nationales. Ils ont tous des programmes entre des trophées, des incubateurs. Donc on voit qu'ils sont assez présents. C'est vrai que là où on les voit un peu moins, c'est sur le côté accélération. monter en référencement, quand on a le pouvoir de pouvoir avoir trouvé le bon produit, si on peut en plus le référencer de façon assez massive, ben effectivement, on donne plus de chances à l'innovation.
Oui, justement, pour passer à la vitesse supérieure. Mais qu'est-ce qui fait qu'une innovation marche réellement?
Alors, l'innovation, c'est la visibilité. 54% des innovations, au bout de 2 ans, n'existent plus. Elles restent, effectivement, parce qu'elles ont de la visibilité. La visibilité, c'est un packaging qui est impactant. On comprend que c'est l'innovation. On a une belle part dans le linéaire. Et potentiellement, il y a une communication dans le linéaire, donc avec une PLV, pour la mettre en avant, voire une promotion. Et quand ces facteurs sont là, bah effectivement, ça fait partie des 54% des innovations qui arrivent à rester.
Je vois que Thierry,
Ouais, je réagis parce qu'en fait, dans l'innovation, il y a un peu tout. C'est-à-dire, il y a des vraies innovations, il faut qu'on les pousse. Et puis, il y a des fois des fausses innovations. Donc, il faut faire la part des choses. Et je me disais, en fait, que on a, l'adage de l'innovation, ça a souvent été les marques nationales, hein, parce qu'elles avaient des services marketing, R&D. Et ce qui est assez intéressant, c'est la montée en puissance de l'innovation sur la marque de distributeur, qui n'est pas qu'un suiveur et qui est aussi un élément différent. Et moi, je pense par exemple à nos équipes qu'on fait. On a notre atelier de charcuterie qui fait aujourd'hui 41 références sans nitrite. Et ça, c'est un vrai plus parce que c'est pas du marketing, c'est pas du packaging. C'est évidemment pour alimenter le sujet santé, nutrition. Et donc, l'innovation vient d'un peu partout. Et moi, j'y crois. J'ai souvent dit aux équipes, la création de valeur, en fait, quand on se bat sur le coca, sur plein de marques où, évidemment, il n'y a plus de marge de manœuvre. L'innovation nous permet de reprendre de l'oxygène. Donc, c'est une politique qu'il faut qu'on ait tous.
Mais on le voit, effectivement, les MDD suivent tout ce qui est tendance aussi, notamment sur la protéine, le très,
notamment,
très protéiné.
Notamment, on suit.
Merci beaucoup à tous les deux. On passe tout de suite au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Et David Bicheron nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Alors, c'est l'interview de la start-up. Vous n'êtes pas vraiment une start-up, mais bon, vous allez nous expliquer un petit peu parce que le concept de Piccadilly, dont vous êtes le directeur général, est arrivé en France il y a 10 ans maintenant. Vous installez des bars à salade dans les zones commerciales, chez les distributeurs. Il y en a 400 en France. Comment s'est fait l'implantation de ce concept ici?
Alors en fait, effectivement, on a une mission chez Piccadilly qui est de démocratiser l'alimentation saine et durable. Et pour ça, en fait, on développe un concept shop in shop, comme on dit, donc de bar à salade en libre service qu'on positionne. Alors historiquement, effectivement, dans des points de vente GMS, mais finalement, au fur et à mesure de notre développement, on s'est rendu compte que pour répondre aux attentes des consommateurs qui recherchent des solutions saines et abordables, il fallait qu'on soit en proximité avec eux. Et en fait, un magasin peut être un hyper, peut être un super, peut être un magasin de proximité comme un Intermarché Express, mais on est aussi beaucoup dans le travel, on est dans des gares, des aéroports, des hôpitaux, des aires d'autoroute, etc. Et donc, en fait, on s'est développé, effectivement, en allant répondre aux attentes des consommateurs d'un côté, effectivement, en rendant cette alimentation saine accessible, mais aussi en répondant aux attentes des enseignes de la grande distribution, qui ont un rôle à jouer, effectivement, sur la restauration, notamment du midi, puisqu'aujourd'hui, la restauration, c'est à peu près 10%. En fait, la GMS représente 10% du chiffre d'affaires de la restauration, et c'est un secteur qui est en train de se développer.
Alors, vous le dites, c'est vrai qu'on le voit depuis ces dernières années, une montée en puissance du snacking dans les magasins, mais aussi du snacking sain. Justement, ces dernières années, comment est-ce que vous voyez cette montée en puissance-là? Ça se traduit comment dans les chiffres?
Alors, ça se traduit par, effectivement, des stratégies d'enseigne qui, effectivement, mettent de plus en plus l'emphase sur le développement de catégories snacking. D'ailleurs, à travers à la fois des bars à salade, mais d'autres solutions de restauration. En fait, on se rend compte vraiment que la GMS peut jouer ce rôle de restauration, notamment de proximité, du déjeuner, à partir du moment où elle offre un choix large aux consommateurs. Donc, le bar à salade, en revanche, a un rôle très important parce que, à la fois, la catégorie salade, c'est à peu près 20% des occasions de consommation à l'heure du déjeuner. Donc, c'est très important pour les consommateurs français. Mais c'est aussi le bar à salade en libre-service, la capacité de créer de la valeur. En fait, on a créé une catégorie de destination. Les consommateurs viennent dans le magasin pour le bar à salade et sont prêts à payer plus cher, à peu près 40%.
Ah oui, 40%. Thierry, je vois que vous acquiescez. Est-ce que vous ressentez justement cet attrait pour le snacking, et notamment dans les magasins de proximité, beaucoup? Est-ce que ça veut dire qu'aussi on alloue des mètres carrés supplémentaires pour ce segment-là?
Ah oui, parce qu'en fait, c'est un acte d'achat à part entière. Alors moi, je suis bien placé, hein, vous le savez, j'ai des points de vente plutôt en région parisienne. Donc on est dans des zones d'habitation mixte. Il y a les personnes qui viennent faire leurs courses et puis il y a celles qui vont venir dans nos supermarchés que pour se restaurer. Donc il y a des zones dédiées qui prennent vraiment un espace important puisque ça peut aller de 5 à 8% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pas rien. Et ces solutions, en fait, là où elles sont intéressantes, c'est qu'évidemment, cette tendance du mieux manger et surtout du côté sain, vous l'avez avec une salade et vous offrez le choix surtout à chacun de composer ce qu'il veut. Donc, c'est un chouette concept. Ouais. Il est en tête sur quelques-uns de nos magasins, d'ailleurs.
Claire. Oui, moi, j'aime bien aussi ce que vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Je veux bien que vous les redonniez. C'est effectivement, ça crée de la fréquence. Et on sait aujourd'hui que dans certains grands formats, mais moyens formats, bah, la fréquence, on court tous après quand on est retailer. Et le fait que devenir de façon récurrente pour le bar à salade, ça peut, j'espère, bien quand sûr. Même faire passer dans d'autres rayons à ce moment-là.
Alors, effectivement, quand on interroge nos consommateurs, 4 sur 10 disent « je viens dans ce magasin, Intermarché Express ou autre, parce qu'il y a ce bar à salade. Sinon, j'irai à la boulangerie en face ou dans le fast-food en face. » Donc, on a vraiment cette capacité à recruter. Et les consommateurs, aux deux tiers d'entre eux, donc beaucoup de chiffres, mais viennent au moins une fois par semaine et souvent plusieurs fois par semaine. Et encore une fois, je l'ai indiqué, mais effectivement, ils sont prêts à payer 40% plus cher versus une salade pré-emballée, mais vont aussi prendre une boisson et ou un dessert. Donc, ils auront un panier moyen qui est aussi très intéressant, notamment en proximité.
Ces bars à salade, donc, ce sont des bars que vous louez aux distributeurs. Ça coûte combien pour un magasin d'installer un
En moyenne, un bar à salade nous coûte 20 000 euros. Donc nous, on leur demande effectivement un loyer pendant 3 ans. Et avec ce loyer, on va aussi amener toute la technologie embarquée. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel on va discuter, qui va effectivement aider à opérer.
Il nous reste 2 minutes, donc allez-y. Dites-nous.
Alors très bien. Donc,
l'innovation.
L'innovation. Alors, on vient de lancer effectivement une innovation qui s'appelle Arc Vision. Donc le mot vision est très important. On a intégré des caméras dans nos bars à salade qui prennent des photos en permanence, sauf quand les gens sont en train de se servir. Donc on ne veut pas prendre les photos des mains des consommateurs. Et c'est traité par l'IA qui indique, en fait, on a un système de LED de couleur sur le bar à salade si le bar il est plein ou en train
ça
de se vider.
Alerte.
Et donc, si c'est vert, tout va bien. Si c'est jaune, il faut commencer à s'inquiéter. Si c'est rouge, il faut vraiment aller voir ce qui se passe et remplir le bar. On dit souvent en GMS, un rayon vide ne vend pas. Un bar à salade, c'est encore pire. Parfois, il suffit qu'il y ait un ou deux produits qui manquent, type le poulet, l'avocat, parce qu'en fait, ce sont vraiment des top ventes. Et à ce moment-là, les gens ne feront pas de bol. Donc, c'est vraiment très, très important pour maximiser les ventes, la rentabilité et satisfaire aussi les consommateurs, les clients, de s'assurer que les bars à salade soient toujours pleins.
Ces nouveaux bars, avec intelligence artificielle, ils sont en test, mais ils commencent à être déployés en France.
En déploiement, effectivement, on a installé les tout premiers récemment. On a déjà 5 installés en France dans des nouveaux magasins, parce qu'on ouvre des nouveaux magasins à peu près toutes les semaines. Et on est aussi en capacité de mettre des kits de rétrofit sur les bars existants. Donc, on va pouvoir installer d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on aura 30 ou 40% du parc équipé de la technologie.
Et ça se ressent sur le chiffre d'affaires directement du bar?
Oui, on augmente dans les magasins test ces derniers mois. On a vu une augmentation du chiffre d'affaires d'à peu près 15%, une réduction aussi de la casse de 20%, parce qu'en fait, quand on n'arrive pas à vendre parce qu'on n'est pas attractif, on génère de la casse. Donc en fait, on crée là vraiment un cercle vertueux.
Thierry, finalement, on parle de bar à salade ici, c'est un exemple, parce qu'on peut aussi beaucoup parler de services, notamment dans les magasins de proximité. C'est, quand on parle de magasins de proximité, il y a une telle consolidation dans les villes que ce qui fait la différence, c'est bien sûr le prix, mais aussi les services. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme ça, services que vous déployez dans vos magasins?
Ce qu'on déploie actuellement, alors bon, on a un service que tous les citadins attendent, c'est la livraison à domicile.
Oui, ça évidemment. C'est un classique.
Uber Eats, c'est en train d'exploser, notamment à Paris. C'est-à-dire que c'est 100-150 préparations entre 19h et 20h le samedi. Oui. Donc, c'est des organisations de magasins qu'on recale pour y faire face. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein aujourd'hui de propositions de start-up pour lutter contre les ruptures. Parce qu'en fait, en proximité, vous n'avez pas beaucoup de surface, donc pas beaucoup de facing. Et on a un flux assez impressionnant. Et donc, en fait, le risque, c'est que vous soyez en rupture. Donc, on a vraiment une aide aujourd'hui à la décision pour revoir les facings, pour réassortir en cours de journée. Et l'IA va avoir une vraie valeur ajoutée dans l'exploitation de nos magasins.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Restez avec nous. On passe tout de suite à l'actu de la semaine. Et avec vous, Claire, on part aux États-Unis. Un phénomène inattendu attire l'attention des distributeurs. C'est les médicaments contre l'obésité, donc le fameux GLP-1. Est-ce qu'ils peuvent changer la manière dont les Américains font leurs courses?
Alors, complètement. Hein, effectivement, en plus, comme il s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui, on a déjà des chiffres. En 2025, a priori, 12% des adultes américains utilisent ce médicament. Donc, c'est le double par rapport à 2024. Et on voit déjà des impacts sur la consommation, puisque, donc, il faut savoir, ce médicament, il a le pouvoir de réduire réduire l'apport calorifique que vous avez besoin, donc la sensation de faim. Donc vous mangez moins en quantité. Voilà. Et donc le moins, ben effectivement, le cabinet Big Scholt commence à communiquer des chiffres. A priori, une baisse de 6,5 milliards de dollars de dépenses alimentaires sur ses utilisateurs.
Et justement, comment est-ce que les industriels arrivent-ils à s'adapter à ce phénomène ?
Alors, on mange moins, on mange différemment. Donc effectivement, on se rend bien compte que 65% des consommateurs vont acheter des formats plus petits, en particulier par exemple sur les céréales. Et on va voir aussi qu'ils vont chercher à réduire la quantité même de charcuterie. Donc je m'oriente vers d'autres aliments et les aliments que je garde, c'est pour des plus petites quantités. Mais les industriels ont pris conscience aussi de l'importance de la protéine et on va voir des marques nationales comme Nestlé ou effectivement comme Babybel mettre en avant des produits ultra protéinés par rapport à l'Europe pour y répondre.
Et ce succès justement des portions où on va, le Babybel c'est parfait puisqu'on peut le mettre dans son sac, on peut manger à toute heure de la journée sans forcément faire un vrai repas. Justement, est-ce que aussi les distributeurs, quelles conséquences ça a pour eux au sein de leur magasin ?
Alors effectivement, on voit chez Walmart, chez Kroger arriver des mises en avant de ces produits-là. Donc, on rassemble les produits avec une présence de protéines plus importante, puisqu'ils vont répondre effectivement à la consommation. On va donner des communications dessus, puisqu'effectivement, encore une fois, 80% en plus de ces consommateurs sont prêts à payer plus cher. Donc, il y a plutôt une belle opportunité de se dire, il y a le produit qui est là, il est prêt à payer plus cher, et c'est une part assez considérable aujourd'hui de la population. Alors, est-ce que ça va arriver en France ? C'est la bonne question, et comment on s'y prépare ? Ça sera aussi une bonne question.
On est encore loin, mais c'est vrai, vous avez raison de poser la question. Merci beaucoup, Claire, pour cette actu. Merci, David Bicheron. Merci, Thierry Cotillard, d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Et quant à moi, je vous retrouve lundi dans la matinale de BFM Business pour Morning Retail. Je vous souhaite un excellent week-end.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.